Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Nous allons continuer notre étude sur Abraham et sa famille et l'alliance de grâce. Aujourd'hui, nous allons dans Genèse 13. On a déjà regardé un peu le premier paragraphe, mais on va le reprendre. Genèse 13, donc, et aujourd'hui on va regarder la prospérité, danger, pluriel, et bénédiction, pluriel aussi. Donc Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, ou près de Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Donc on continue cette étude sur Abraham et nous avons vu la semaine dernière la foi d'Abraham, une foi qui lui fut donnée quand Dieu lui apparut en Ur, à Ur, en Chaldée, et quand Dieu s'unit à lui dans sa grâce, dans une relation vivante. La foi que Dieu a donnée à Abraham, c'est une foi qui obéit quand elle est appelée, une foi qui part quand Dieu le demande, et surtout une foi qui arrive. On se rappelle du fait que Terach a quitté Ur mais n'est pas arrivé en Canaan, le père d'Abraham. Et la foi que Dieu donne à Abraham, c'est une foi qui a les regards sur Dieu. Mais la foi d'Abraham, comme celle de tous les élus de Dieu, n'est pas ce en quoi il faut placer sa foi. Cette foi est faible et faillible, et elle n'a de force qu'en ce qu'elle a foi. C'est l'objet de la foi qui est important, c'est-à-dire la promesse de Dieu, c'est-à-dire Christ, le Messie, l'envoyé qui est promis dès le commencement, dès le jour de la chute. Et la foi d'Abraham se fixe sur la promesse, et c'est pourquoi cette foi est indestructible. C'est la foi de Dieu. La foi qui vient de l'homme, une foi qui viendrait de l'homme, ne se fixerait jamais sur la promesse, puisqu'elle vient de la chair. La foi d'Abraham, cette foi que Dieu lui a donnée, même quand elle est éprouvée, elle défaille, mais elle revient. Et ici, elle revient au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Donc, il revient vers l'Éternel. Et ça, c'est une marque importante de la foi biblique. La descente d'Abraham en Égypte est un événement, une circonstance dans sa vie qui est réelle et historique. Mais c'est une circonstance qui revêt aussi une dimension typologique. C'est un type, c'est une ombre, c'est une illustration. Et on doit garder cette dimension à l'esprit, car c'est une des manières dont Dieu enseignait son peuple dans l'Ancienne Alliance et une des manières dont nous pouvons comprendre certaines choses de l'Ancienne Alliance alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La typologie, le fait que Dieu illustre certaines choses par avance. La descente d'Abraham en Égypte, et on parle d'une descente, la descente d'Abraham en Égypte préfigure celle de la famille de Jacob plus tard, comme Dieu va le préciser au chapitre 15 que nous verrons dans quelques temps. Comme pour Abraham, c'est la famine qui conduit son petit-fils Jacob à aller s'installer en Égypte. Probablement on est familier avec les détails de cela, mais nous les verrons dans la suite, dans d'autres études. Et plus tard, ce séjour, le séjour de Jacob en Égypte, deviendra une circonstance d'asservissement, parce que rien n'est stable dans ce monde. Et comme Dieu avait déjà suscité d'avance un libérateur de la famine dans la personne de Joseph, il en suscite un autre d'avance pour la libération du peuple, Moïse. Et c'est avec Moïse, à travers Moïse, qu'il fait remonter son peuple d'Égypte et qu'il le fait entrer dans le pays de la promesse et du repos. Pas tout à fait, puisque Moïse n'a pas pu le faire entrer dans le pays de la promesse et le pays du repos, parce que Moïse représente la loi et la loi ne peut jamais donner du repos. Mais voilà, Abraham qui descend en Égypte préfigure Jacob qui va descendre en Égypte, et en Égypte, il va connaître cet asservissement. Et donc déjà, nous avons un type, une ombre, une annonce de ce que Dieu va faire dans son alliance. Abraham, une fois en Égypte, se met dans une situation désespérée. Alors il n'a pas réalisé qu'il se mettait dans cette situation, comme nous avons vu la semaine dernière, mais la situation est vraiment désespérée, elle lui échappe. Pourquoi est-ce qu'il se met dans cette situation désespérée? C'est parce qu'il suit la folie de son propre cœur. C'est-à-dire, il suit, en fait, les élans de son cœur, le raisonnement de son cœur. C'est un homme qui agit d'une manière charnelle. Et dans le Nouveau Testament, petite parenthèse, quand il est parlé de l'homme charnel, en fait, une meilleure traduction serait « l'homme qui agit selon sa raison ». Seulement. Et ici, Abraham suit la raison de son propre cœur. Il y a une situation qui va se développer, donc voilà, on va agir de certaines manières. Mais Dieu intervient dans sa grâce, dans le désespoir d'Abraham. Et il intervient dans sa grâce pour rétablir le patriarche dans le pays de la promesse et en communion avec lui. Et ces deux choses-là sont importantes. De même, la tribu de Jacob est dans une situation désespérée en Égypte. Ils sont esclaves et ils n'ont aucune force pour s'en sortir. On n'a jamais entendu parler d'un esclave qui se libère par lui-même. Mais dans sa grâce, c'est-à-dire, quand nous utilisons cette expression, dans sa grâce, cela veut dire sans y être invité ni obligé, Dieu intervient et il les ramène dans le pays. Et les aimés de Dieu, les élus de Dieu, qui par nature gisent tous dans le désespoir de la mort du péché, chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Ils sont sans force, nous dit le Nouveau Testament, esclaves d'un cœur qui est désespérément pécheur, méchant, un cœur qui refuse de se tourner vers la solution de Dieu. Les bien-aimés de Dieu sont dans cet état-là, un état désespéré d'asservissement au péché et à leur nature. Mais, dans sa grâce, Dieu a déjà envoyé d'avance le libérateur et il intervient souverainement, sans y être obligé, sans y être invité, de façon à les extraire de la servitude et de les amener dans le repos qui est Christ. Et donc, en Abraham, on a ce type, cette annonce, cette ombre de ce que Dieu fait dans son alliance éternelle. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, que nous voyons comment Dieu sauve par grâce, sans le moyen des efforts de l'homme et tout cela, nous pouvons retourner à Abraham pour voir, voilà, c'est exactement ce que Dieu a fait. Et maintenant, avançons dans notre texte, parce qu'on a le chapitre 13 à regarder là. Et notre premier point va nous mettre tout de suite dans le contexte. Et je l'intitule « La prospérité n'est pas toujours une source de bénédiction ». La prospérité n'est pas toujours une source de bénédiction. Alors, comme j'y ai fait allusion la dernière fois, dimanche dernier, il est important de souligner cela, surtout aujourd'hui. Par nature et dans l'état pécheur de son cœur, l'être humain, vous et moi par nature, est foncièrement centré sur lui-même. En raison de sa rébellion contre Dieu, ce trait de caractère est condamnable, car il cherche à prendre la place de Dieu. C'est moi d'abord, c'est moi le premier. Et donc, il déifie Dieu, d'une certaine manière, pour se diviniser lui-même. Il cherche à prendre la place de Dieu. Et on le voit sans cesse, dans notre vie et autour de nous. C'est donc pour cela que l'être humain recherche une prospérité d'une manière coupable, c'est-à-dire d'une manière centrée sur lui-même. En soi, la prospérité n'est pas mauvaise. En fait, elle ne va ni d'un côté ni de l'autre. Elle permet de faire beaucoup de choses qui sont bonnes, quand elle est utilisée avec générosité, par exemple. Mais quand cette prospérité est employée par un cœur pécheur, elle peut devenir une arme létale, un grand danger. Alors, il est important d'aborder ce sujet, cet aspect, car un désir effréné, un désir égoïste vis-à-vis de la prospérité s'est emparé dans notre génération des milieux religieux dits chrétiens. Et cette situation en arrive même à infecter et à affecter l'Église. On enseigne souvent, et je pense qu'on a tous fait l'expérience, peut-être pas directement, mais tout au moins par oui-dire, on enseigne, et parfois on le fait de manière éhontée, que la prospérité est le droit du croyant en Christ. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Il faut, on nous dit qu'il faut la rechercher, il nous faut la demander, il nous faut même l'exiger. Et souvent, on fait cela d'une manière exclusive et accaparante, c'est-à-dire que cela devient le centre du message, le centre de cet évangile, petit e. Mais surtout, tout cet enseignement est fait d'une manière charnelle, c'est-à-dire d'une manière qui est centrée sur la chair, sur le moi. Ce n'est pas la prospérité des autres que je désire, c'est la prospérité, ma propre prospérité. Et je me souviens une fois avoir eu à subir l'enseignement assez minable d'ailleurs, au niveau raisonnable, d'un monsieur qui nous disait, qui nous répétait à longueur d'heure, ça a duré plusieurs heures, que cette prospérité c'était le droit du croyant. Mais on voyait très bien qu'il visait ce qui allait se passer après son message, c'est-à-dire la collecte. La collecte. Et lui-même ne devait pas avoir une grande prospérité parce que tous ses frais étaient payés, et même des grands frais, il n'allait pas dans n'importe quel hôtel. Enfin, voilà, la prospérité, la recherche de la prospérité est souvent centrée sur le moi, centrée, elle est animée par la chair. Si la prospérité n'est pas une mauvaise chose en soi, employée par un cœur pécheur et égoïste, elle devient un écran qui aveugle vis-à-vis des promesses de Dieu et elle provoque la tension et la guerre. Et Dieu promet effectivement la prospérité à son peuple. On a des tas de promesses dans ce sens, mais c'est une prospérité dans le cadre de l'alliance, c'est-à-dire une prospérité qui est en Christ, qui concerne l'être humain tel que Dieu l'a créé et tel que Dieu veut l'amener dans sa présence et agit dans ce sens. C'est une vraie prospérité. La prospérité rend aveugle vis-à-vis des promesses de Dieu. Et on le voit souvent. Et il ne faut pas nécessairement, c'est une petite parenthèse que j'ouvre là, parce qu'on peut tomber dans les caricatures. Nous avons les apôtres de la prospérité. Et on voit clairement que ce n'est pas chrétien du tout, ça, même si ça, on demande le nom, on exige le nom. Mais des fois, nous avons dans notre vie une accentuation, peut-être une focalisation pour une certaine sécurité, un bien-être. C'est le même esprit. Alors, ça ne va pas aussi loin, mais c'est le même esprit. Et peut-être que ça nous est plus dangereux pour nous-mêmes. Donc, veillons à ne pas simplement nous focaliser sur la caricature de la chose. Dans la chair, et gardons à l'esprit que le croyant ici-bas est encore dans la chair, la prospérité est synonyme avec danger et problème, difficulté. Et c'est pour cela que Dieu éprouve ses enfants comme l'enseigne l'apôtre. Il dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». Et il dit ça à des jeunes chrétiens, puisque c'est dans les Actes, si vous prenez les références, c'est Actes 14, 22. Hein, c'est quand il rend visite aux églises qui viennent d'être fondées. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut sevrer le croyant de cette chair qui cherche la prospérité, qui cherche la sécurité. La tribulation n'est pas plaisante, mais parce que la chair est asservie au péché, elle est salutaire. Et nous avons la promesse du Nouveau Testament que pour celui qui est exercé par ces choses, par ces difficultés que le Seigneur amène dans la vie du croyant, eh bien, elle produit quelque chose, elle produit un fruit, le fruit de justice, le fruit de paix. Et c'est intéressant que cela montre que Dieu, en fait, amène ses enfants, amène son peuple à être exercé, à faire de l'exercice. Alors, pour se garder en forme, on fait de l'exercice. Enfin, certains d'entre nous, n'est-ce pas ? Mais voilà, c'est ce que Dieu fait. Et donc, Dieu provoque et amène la tribulation, non pas dans un désir pervers de faire souffrir ses enfants. Non, c'est un père, nous l'avons vu, il sait de quoi nous sommes faits. Mais afin de nous sevrer de cette chair qui va même utiliser les meilleures choses contre lui. Donc, ce soi-disant évangile de la prospérité, si populaire aujourd'hui, est un mensonge réel du diable. Et il faut le dire, ça n'est pas simplement une erreur humaine, c'est un mensonge du diable. Et il est envoyé pour séduire les boucs, ceux qui ne connaissent rien de l'alliance de Dieu. Mais il est aussi dangereux pour les brebis. Il est aussi dangereux pour les brebis. Et mes amis, ce n'est pas un évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle, pour la simple raison que tout ce que la chair de péché touche devient potentiellement une malédiction. Une malédiction. Et on va le voir dans notre passage. Beaucoup prêchent ce message de la prospérité, sachant qu'il est faux. Mais un tel message, mes amis, c'est pour cela qu'il est si populaire aujourd'hui, un tel message remplit les salles et il remplit les poches. Et donc la prospérité n'est pas toujours une source de bénédiction. La prospérité peut amener la malédiction. Deuxième point, parce que nous avons une situation qui se développe ici dans notre passage. Deuxième point, je l'intitule l'étincelle. Et vous allez voir pourquoi. Abraham est revenu de son erreur. Il est remonté d'Égypte et il est venu à invoquer le nom de l'Éternel. Donc c'est un chapitre qui est clos. Et il est de nouveau en communion avec son Dieu. Il est à l'autel dressé auparavant et il invoque le nom de l'Éternel. Un Éternel, nous avons vu dans la lecture du psaume 103, qui se plaît à pardonner. Alors on peut dire tout va bien, tout va bien. En plus, son neveu Lot et lui-même sont devenus très riches. Et le texte nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 2. Et puis, Lot avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Verset 5. Tout va bien. Tout va bien. On est riche. Ils auraient pu se dire, ou tout au moins Abraham aurait pu se dire, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. » Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, et ainsi de suite. Comme le riche insensé de Luc chapitre 12. Il aurait pu se dire cela. Mais Dieu, dans sa grâce, et n'oublions pas que nous regardons l'œuvre de la grâce de Dieu ici, Dieu, dans sa grâce, ne leur permet pas, car le dessein de Dieu, ça n'est pas une prospérité matérielle qui va passer. Ça n'est pas une prospérité matérielle dans un Canaan géographique et terrestre. Non, son dessein va beaucoup plus loin que cela. Et les problèmes surgissent donc pour garder ses enfants, ceux qu'il aime de toute éternité, en marche vers le vrai repos. Le repos n'est pas en Canaan. Abraham et Lot avaient le projet de s'établir. Regardez le verset 6. C'est un peu en filigrane, là. La contrée était insuffisante, ils ne pouvaient pas demeurer ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ce qui montre qu'ils avaient le projet de demeurer ensemble, de s'installer. Mais ça n'est pas le dessein de Dieu, absolument pas. Dieu a d'autres visées. La taille de leurs biens rend donc la contrée insuffisante. On peut très bien voir la chose. Et si mon cœur est insatisfait avec ce monde-ci, alors c'est une bonne chose, même si ce n'est pas plaisant. Il y a des frustrations pour le croyant ici-bas, pour le vrai croyant. Il n'est pas à l'aise dans cette vie, tout au moins quand il est en bonne santé spirituelle. Et ça, c'est une bonne chose, même si ce n'est pas plaisant. Et nous voyons ici, il y eut une querelle entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre. Et c'était obligé d'arriver. Et c'est là l'étincelle. Bien entendu, la situation, une situation de cette ampleur, doit forcément provoquer, en présence d'hommes pécheurs, une étincelle et une déflagration. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme cela est courant. Même au sein du peuple de Dieu, dans ses meilleurs moments. Ici, Abraham est en pleine communion avec Dieu. Et on n'a pas de raison de douter que Lot n'est pas dans le même cas. Mais il y eut querelle. Plus tard, par exemple, dans l'Église naissante, alors que l'Église passe par des moments de bénédiction spirituelle immense, ils passent de 120 qui sont présents dans la chambre haute, et les voilà maintenant 3000, et puis peu de temps après 5000. Et même une foule des sacrificateurs sont touchés à salut. C'est merveilleux. Même des faux comme Ananias, Saphira ne peuvent pas tenir dans cette atmosphère-là. Ils sont démasqués. Et regardez ce que le texte dit, ça c'est en acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, c'est-à-dire l'Église grandissant, les hellénistes murmurèrent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait une étincelle, une déflagration qui a commencé. Il y avait des disparités dans le fonctionnement de l'Église, parce que l'Église, en quelque sorte, faisait éclater ses coutures. Elle devenait trop grande. Et combien de fois cette situation se reproduit ? La vie ici-bas, les amis, n'est pas le ciel. Et combien de fois il nous faut nous le répéter ? Ça n'est pas le ciel, même pour les élus de Dieu. Alors, soit dit en passant, pour notre encouragement et l'encouragement de ceux d'entre nous qui sont responsables dans le peuple de Dieu, Abraham n'a pas vu la chose venir, tout spirituel qu'il est. Lot non plus. Et plus tard, les apôtres n'ont jamais vu venir la difficulté dans l'Église. Or, c'était quand même les apôtres, remplis du Saint-Esprit, appelés à être les colonnes dans l'Église. Ils n'ont jamais rien vu. La situation a simplement évolué. La bénédiction de Dieu conduit à une étincelle en présence de la chair. Donc ne pensez pas que parce que Dieu vous bénit, que maintenant vous êtes arrivé au ciel. Loin de là, loin de là. Attendez l'étincelle plutôt. Parce que dans sa grâce, Dieu n'en a pas fini avec nous. Il ne vise pas que nous soyons sur cette pauvre terre pour toujours, satisfaits. Non. Et tout cela, c'est une bénédiction, parce que les pensées de Dieu sont beaucoup plus élevées que les pensées de l'homme. Son but, son dessein, ne concerne pas un monde affluent dans lequel l'Église est à l'aise, mais il vise des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice règnera et où Christ, l'agneau, sera au milieu du peuple. Voilà ce que Dieu vise. Et donc, il y a des étincelles qui viennent et qui nous montrent sa grâce. Avançons. On a regardé l'étincelle. Maintenant, on va voir un peu ce qui suit cela. Et ce prochain point, je l'intitule « Nous sommes frères ». Bien entendu, cela vient de notre passage. « Nous sommes frères ». La situation est explosive et elle menace de porter atteinte à l'honneur de Dieu. Ce n'est pas simplement un problème entre les bergers et les bergers ou entre Abraham et Lot. Mais Moïse fait bien attention de préciser les Cananéens et les Pharisiens, les Phérésiens, c'est intéressant, et les Phérésiens habitaient alors dans le pays, verset 7. C'est la manière dont il nous indique qu'Abraham, quand il agit, il n'agit pas dans son propre intérêt, mais il agit vis-à-vis de Dieu. La situation ne peut pas évoluer dans le sens où elle est en train d'aller. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Abraham intervient donc. Beaucoup de choses ont été dites dans ce registre. Combien il était d'une abnégation exemplaire, en laissant passer le plus jeune et ainsi de suite. Alors, il n'est pas certain que Lot ait été beaucoup plus jeune qu'Abraham. Et il est même possible qu'ils aient eu plus ou moins le même âge, mais on va laisser ça de côté. Mais Abraham, c'est quand même le tonton, hein, c'est l'oncle. Et c'est en lui, c'est à lui que revient la responsabilité d'agir. Et il le fait. Et il le fait. La démarche d'Abraham n'est pas une simple action de bonne gestion pour sauver leurs entreprises. Parce que, étant dans un endroit trop à l'étroit, leurs troupeaux et toutes ces choses, non seulement il va y avoir des tensions, mais il ne va pas y avoir assez d'herbe, tout simplement. Alors, Abraham n'agit pas simplement à cause de cela. Non. C'est ce que Moïse nous indique là. Il a conscience du nom que Lot et lui portent. Et c'est pour cela qu'il dit « Nous sommes frères ». Alors, il ne parle pas simplement du fait que lui, il est l'oncle et Lot est le neveu. Non. En fait, c'est vrai que dans cette culture-là, ils étaient frères, comme dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui. Ils font partie du même clan, n'est-ce pas? Mais il est clair que Lot partage la même foi qu'Abraham. C'est pour ça qu'il est à Canaan. C'est pour ça qu'il est avec lui. Ils sont frères dans la grâce. Et Abraham a bien conscience de cela. Mais les mots d'Abraham vont même encore plus loin que cela. Ils concernent toute l'œuvre de Dieu. Et ici, on voit l'esprit d'Abraham. C'est comme s'il disait à son neveu, « Qu'est-ce que c'est que toute cette prospérité si nous, on en vient à se quereller ? Qu'est-ce que c'est que tous ces animaux en multitude en comparaison à la paix que nous avons dans la promesse de Dieu, toi et moi ? Nous sommes participants de la promesse de Dieu. Et il nous a promis quelque chose de beaucoup plus grand que simplement des grands troupeaux et de l'argent et de l'or. Non. Que sont toutes ces choses ? Son regard, le regard d'Abraham, se porte sur toute l'alliance de Dieu. Et ça lui permet de faire une comparaison comptable. Et c'est une leçon pour tout vrai croyant. Mes droits sont-ils si importants dans un tel contexte? Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous avons cette injonction, cette exhortation à laisser nos droits devant les autres, même à être grugé, si on pourrait dire, dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus important. C'est plus important. Et en fait, nous ne sommes pas appelés à défendre nos droits. C'est l'Éternel qui le fait. Donc, le regard d'Abraham se porte sur toute l'alliance de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous, c'est une exhortation, c'est un avertissement pour nous. Est-ce que c'est ainsi que je vis? Que je vis. Donc, l'étincelle, nous sommes frères, l'esprit d'Abraham. Et puis, le point suivant, si tu vas à droite, j'irai de l'autre côté. Mes amis, la prospérité, quand elle vient, elle n'est pas le centre de tout. Ici, Abraham et Lot sont très prospères. L'épreuve qu'engendre la prospérité n'est pas le centre de tout non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous concentrer sur cette épreuve. Elle est là, oui, oui, mais il faut la traiter. Et la réponse qu'on apporte à cette épreuve n'est pas non plus ce qui est important. Même si c'est important, ça n'est pas ce qui importe au premier chef. Ici, nous voyons que c'est surtout l'esprit de la réponse qui est important, qui est le centre de tout. Abraham était en droit de décider quelle était la portion qui lui reviendrait. C'était l'oncle. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Au contraire, il s'efface devant Lot. Est-ce que c'est un élan de générosité? Est-ce que c'est l'esprit altruiste hors du commun? Non, il y a plus que cela. Beaucoup plus que cela. Rappelons-nous qu'Abraham est en Canaan parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu l'a envoyé et parce que Dieu lui a fait des promesses. Et donc, par la foi, le père des croyants, comme il est décrit, a plus conscience du Dieu qui lui fait grâce qu'à sa propre prospérité et qu'à sa propre sécurité. Que sont quelques arpents de terre promise en comparaison avec le Dieu de la promesse? Et vous voyez comme quoi, Abraham, il ne regarde pas Canaan, mais il regarde ce dont Canaan est l'image. Et c'est pour cela que Christ peut parler d'Abraham qui a vu son jour. Il voit beaucoup plus. Et à mesure que nous allons avancer dans la vie d'Abraham, on va voir que cela devient de plus en plus clair. Mais c'est tout à fait cela. Et on pense ici, par exemple, ça me fait penser tout au moins, mais je vais partager, à Zachée, l'histoire de Zachée. Un homme qui est cupide, qui amagasine, qui s'accapare des tas de choses comme ça. Et puis, de manière merveilleuse, de manière divine, il est transformé. La grâce vient habiter ce cœur. Ce cœur est nouveau. Et qu'est-ce qu'on le voit faire? Il donne. Mais bien entendu qu'il donne. Pourquoi? Pas parce qu'il a trop, mais surtout parce que ses richesses n'ont plus aucune valeur. Maintenant, il est transformé. Il a un père, un nouveau père, qui est riche. C'est à lui qu'appartient, comme dit l'Ancien Testament, les troupeaux sur les 1000 collines. Et alors, qu'est-ce que Zachée va passer son temps à accaparer de l'argent qui se dévalue au cours du jour? Non, il peut donner. Et ici, Abraham, il ne regarde pas, « Canaan, ça c'est mon pré carré, maintenant il faut que tu ailles autre part, toi Lot, parce que ça m'a été promis. » Non, non, non. Abraham a plus conscience de la nature de Dieu que de sa propre situation. Et ça, c'est une leçon merveilleuse pour chacun d'entre nous. Quel témoignage à la foi que Dieu plante dans le cœur de son peuple. Et si je n'ai pas cette foi, alors il me faut aller devant Dieu pour l'implorer qu'il me la donne. Quoique je pense qu'il m'ait déjà donné. Mais ne nous leurrons pas. Il fallait de la foi à Abraham pour écarter ses droits. Ça n'est pas quelque chose qui vient du cœur, simplement du cœur naturel. Et bien entendu, cela nous fait penser à quelqu'un d'autre. Et c'est l'esprit de Christ qui habite Abraham et qui lui permet de se tourner vers Lot et de lui dire « Va à droite, moi j'irai à gauche. Choisis, vas-y. » Et nous voyons Christ qui nous est décrit par l'apôtre Paul. Celui qui est en forme de Dieu, c'est son droit. Il n'a même pas besoin de le réclamer, il le possède. Eh bien, que fait-il pour l'alliance de son Père, pour le dessein de son Père, pour obéir à son Père? Il écarte sa gloire. Il se fait de moins que rien, maudit sur la croix, afin de pouvoir sauver son peuple. Et donc, c'est cet esprit-là qui habite le croyant. Comme il habitait le père des croyants, Abraham. Alors, on avance encore un peu, et là, c'est peut-être pas si plaisant. Notre point suivant. Lot leva les yeux et vit. Et je reprends ces mots directs du texte pour montrer que quand Moïse, par exemple ici, ou quand la Bible utilise des mots, ça n'est pas à l'aventure. C'est bien de façon à bien montrer la réalité. L'offre est là, et c'est l'heure du choix. Et Lot fait naufrage. Et c'est effrayant de constater qu'il est possible de chavirer même pour un vrai croyant. Même pour un vrai croyant. Lot a quitté Ur en Chaldée. Et il est clair que par la foi, il quitte Charan en accompagnant son oncle pour aller à Canaan, la terre de la promesse. Lot est un juste. C'est un enfant de Dieu. Et le Nouveau Testament nous le confirme. Mais ici, le Seigneur le laisse à ses propres moyens. Et Lot choisit selon ce qu'il voit. Il choisit ce qui le rendra plus tard, nous dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 7, qui le rendra profondément attristé. Lot ici choisit selon la chair, c'est-à-dire il choisit avec égoïsme ce qui va lui pourrir la vie, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous verrons la semaine prochaine comme quoi il a connu certaines circonstances qui n'étaient pas plaisantes. Et puis, ce choix va lui dérober sa femme plus tard. Ce choix va dégénérer ses filles. Alors, les filles avaient des responsabilités par elles-mêmes, n'est-ce pas? Ce choix, ce pauvre choix de Lot, un choix selon la chair, va faire de lui le père incestueux des ennemis du peuple de Dieu. Nous le verrons par la suite. Et si on en croit l'Écriture, lui-même sera sauvé, mais comme par le feu. Comme par le feu. Et donc, ce n'est pas tellement l'exemple qu'on voudrait suivre. Et comment lui, Lot, croyant, a-t-il pu faire un tel choix? C'est la question qui se pose, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en danger de faire le même choix. Et Lot était croyant, mais il y a des gens qui se pensent croyants et qui sont ouverts à un choix beaucoup plus grave encore. Alors, premier sous-point, il vit la plaine arrosée. Lot laisse sa chair choisir. Et ce que sa chair voit est un pays qui est comme le jardin de l'Éternel. Alors, bien entendu, par cette expression, Moïse montre que c'est quelque chose qui ressemblait au paradis. C'était luxuriant et tout. Or, mes amis, le paradis n'est pas sur terre. Et Lot suit ici une illusion. Il a mis l'Éternel en oubli et il est au service de maître Lot maintenant. Il se sert lui-même. Et il sert son cœur qui est trompeur, parce qu'il y a des choses qui se savaient dans la région, nous allons le voir dans un moment. Mais Lot n'en tient pas compte. Et il va en souffrir. Mais il voit la plaine bien arrosée. Il ne voit pas, deuxième sous-point, il ne voit pas les gens de Sodome, ni leur fin. Ni leur fin. Et c'est très intéressant que quand nous allons dans le livre des psaumes, le psaume 73 par exemple, on a quelqu'un qui est dans le même danger que Lot. Il envie les méchants, l'opulence des méchants. Et il se dit, mais pourquoi est-ce que moi, je fais des efforts? Pourquoi est-ce que moi, je suis l'Éternel? Et puis, il y a un moment, il comprend, il voit la réalité. Et il nous le dit, c'est quand il est allé dans le sanctuaire. Et ici, Lot ne va pas dans le sanctuaire. Il suit ses yeux, et il ne voit pas. Parce que le psalmiste, quand il va dans le sanctuaire, il s'aperçoit, il comprend la fin des méchants. Il dit, tu les mets sur une pente glissante. Et là, quand on est sur une pente glissante, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, hein, le poids suffit. Et Lot est exactement dans ce point-là, sauf qu'il ne va pas dans le sanctuaire. À strictement parler, la plaine s'étendait à cette époque-là hors des limites de la terre promise. Et le texte nous dit que Lot s'avança vers l'Orient. Alors ça, c'est un petit procédé technique dans la Genèse. Maintes fois, on va voir cette phrase revenir, « aller vers l'Orient ». Et c'est toujours pour montrer, pour indiquer qu'on s'éloigne de Dieu. Par exemple, pour simplement donner un exemple, quand l'homme et sa femme, à l'origine, sont chassés du jardin, ils vont vers l'Est, ils vont vers l'Orient. Et ça, dans la pensée hébraïque, c'était s'éloigner de l'Éternel, ou tout au moins s'éloigner de son dessein. Et Lot s'avance vers l'Orient. Il s'éloigne de l'Éternel, il s'éloigne des promesses. Lui qui est croyant. La plaine est luxuriante, elle est propice pour ses grands troupeaux, avec lesquels Dieu l'a béni. Mais les gens de Sodome étaient de grands pécheurs contre l'Éternel, et celui-ci allait tout détruire, avant bien longtemps. Et ces choses-là devaient être connues. La méchanceté des hommes de Sodome devait être connue, mais Lot l'a mise en oubli. Les yeux de la chair ont aveuglé les yeux de la foi, et tout croyant prendra cela à cœur. La prospérité, mes amis, peut conduire au malheur. Au malheur. Et malheureusement, c'est souvent le cas. On va retrouver Lot la semaine prochaine, Dieu voulant, et puis encore plus tard. Mais franchement, on n'aimerait pas avoir Lot pour modèle. Pour modèle. Donc Lot a levé les yeux, il a vu, et il a pris la mauvaise part. Mais que dire d'Abraham? Et c'est notre prochain point, notre dernier point en fait. L'Éternel dit à Abraham. Lot vient de partir, il laisse son oncle parmi les collines de Canaan. Alors, ce sont pas des montagnes, mais des collines, tout un massif qui est quand même avec une certaine aridité. Et c'est un peu, c'est pas comme la plaine, c'est pas bien arrosé de ce sens-là. Et il n'est pas difficile d'imaginer les pensées qui traversent l'esprit d'Abraham. C'est un homme de foi, c'est vrai, mais c'est un homme. C'est un homme. Et comme un homme, il peut, le soir, vous savez ce que c'est, il est là sur sa couche et les événements de la journée lui reviennent. Et puis il se dit, mais peut-être que je n'aurais pas dû laisser le choix, parce que c'est clair que pour lui, Lot a pris le mauvais choix. Peut-être que j'aurais dû agir autrement et tout. Vous voyez comment on a tendance à revenir sur ces choses-là, des choses qu'on ne peut plus changer. Abraham est peut-être là-dessus et Abraham peut se dire, mais l'Éternel m'a promis quelque chose, mais où est-ce que c'est? Et on verra plus tard qu'il y a quelque chose qui taraude l'esprit d'Abraham déjà. C'est le fait qu'il lui ait promis une postérité et que chaque année ajoute au fait que la stérilité de sa femme met un poids à la réalisation de cette promesse. Et on va voir qu'il va être tenté de ce côté-là. Mais on peut imaginer les pensées qui sont dans l'esprit d'Abraham. Et c'est pourquoi Dieu vient vers lui. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Et vous qui êtes croyants, vous passez par des situations, vous posez des grands points d'interrogation pour l'avenir ou pour que sais-je encore. Enfin, vous savez, c'est dans votre cœur, n'est-ce pas? L'Éternel vient vers Abraham. Et Abraham le rencontre. Et l'Éternel vient vers Abraham pour lui renouveler la promesse. Pour lui renouveler la promesse. Et il le pousse maintenant à prendre symboliquement possession de cette promesse. Il lui dit, va, regarde, regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde à l'Orient, à l'Occident, et tout ce que tu vois, je le donne à ta postérité. C'était quand même assez énorme, n'est-ce pas? Et puis il lui dit, va, lève-toi, et puis parcours le pays. Et dans ce temps-là, parcourir le pays, c'était un signe de propriété, on l'a vu la semaine dernière. Il se déclarait, en fait, comme propriétaire, comme le roi de cela. Et voilà ce que Dieu vient faire. Et Dieu, dans sa grâce, il s'approche des siens, dans leur extrémité, dans leur... On a vu encore ce psaume 103, c'était vraiment un bon choix, Philippe. Il connaît, il sait de quoi nous sommes faits. Et quand vous êtes là avec des pensées que vous ne devriez pas avoir, si vous êtes croyant, eh bien, il le sait. Il ne vient pas avec la trique. Il vient avec la promesse. Il renouvelle la promesse. Une promesse qui est énorme, n'est-ce pas? Lot a levé les yeux pour voir la fertilité passagère de la plaine. Dieu enjoint à Abraham de lever les yeux pour voir le pays qu'il lui donne pour toujours. Et c'est sûr que quand on dit cela, Abraham a entendu cela, il savait qu'il s'agissait de plus que Canaan. Ce n'est pas simplement Canaan, parce que Canaan, ce n'est pas pour toujours. Lot descend vers Sodome, il finira comme, enfin la dernière image qu'on a de lui, il est ivre dans une caverne, il est trompé, il est utilisé pour être le géniteur des ennemis de Dieu. Dieu promet à Abraham une postérité comme la poussière de la terre. Ça, c'est la vraie prospérité, n'est-ce pas? Si tu peux compter la poussière de la terre, déjà là, ça nous fait un peu sourire, hein? Eh bien, on peut compter ta postérité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous le voyons de nos yeux. Où sont les Moabites? On a même du mal à savoir exactement où ils étaient situés. Où sont les Ammonites? On verra que ce sont les enfants des filles de Lot. Disparus, détruits dans la disgrâce. Chaque fois que ces deux noms sont mentionnés, c'est pour montrer la disgrâce des gens qui sont contre Dieu. Disparus. Où est la postérité d'Abraham aujourd'hui? Partout sur toute la terre. Partout sur toute la terre. Pensons simplement à quelques-uns des croyants que nous connaissons. Et déjà, on peut avoir une page entière de pays. Le Seigneur nous a fait cette bénédiction ici à Chalon de connaître des gens un peu partout, n'est-ce pas? Cette postérité, elle est partout. La prospérité, mes amis, n'a pas d'évangile. Elle ne produit pas de bonnes nouvelles. Elle n'apporte rien. La plupart du temps, elle est source de difficultés. Et il y a une chose qui me frappe quand je me promène en Afrique, parce que là, c'est peut-être plus contrasté, mais dès que quelqu'un commence à être nanti, comme ils appellent, qui est vraiment affluent, alors il fait bâtir une grosse maison ou un petit château, avec des hauts murs. Et qu'est-ce qu'il met au-dessus du mur? Du barbelé, n'est-ce pas? C'est comme ça chez vous. Voilà. Ici, on le voit moins. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il faut un système de sécurité d'alarme, n'est-ce pas, sophistiqué, qui coûte beaucoup. Il faut avoir toute une équipe de garde du corps. Pourquoi? Parce que la prospérité n'a pas d'évangile. Pas du tout. Non. Elle produit des difficultés, les sources de difficultés, elle produit des luttes. Parce que moi, je veux ce que l'autre a, n'est-ce pas? D'autres fois, la prospérité endort dans un sommeil de mort. Et nous, en Occident, on est peut-être plus dans ce cas-là. La bénédiction n'est pas dans la prospérité. La bénédiction, c'est dans le Dieu de l'Alliance. C'est dans ce qu'il produit. D'un homme qui est compté pour mort, et ça va devenir encore de pire en pire jusqu'à 99 ans, n'est-ce pas? Il produit une postérité immense, éternelle. Une postérité qui est en celui qui a remis les bénédictions de l'Alliance à son fils. Et ici, nous voyons comme quoi, tout au long, Abraham voit le jour de Christ. Si Abraham ne peut pas prononcer le mot Jésus, Abraham connaît l'Alliance de Dieu. Et c'est ce que ce passage nous appelle à faire pour nous-mêmes. Ne nous leurrons pas et soyons honnêtes, la prospérité a un attrait. Oh oui, elle a un attrait. C'est bon d'avoir de l'argent, hein, c'est bon d'être à l'aise, comme on dit. Oui, oui. Mais dans le cadre de la réalité des choses, en Dieu et en son alliance, la prospérité renferme des dangers. Mais en même temps, dans la puissance de la grâce de Dieu, celui à qui Dieu donne des biens, alors lui est béni, non pas par les biens, mais par le Dieu de l'Alliance, comme Abraham. Abraham avait beaucoup de biens, mais s'il n'avait pas eu beaucoup de biens, il était tout aussi béni. Et donc les biens, la prospérité, c'est quelque chose finalement d'assez indifférent. Veillons, mes amis, à obéir à cette injonction biblique de ne pas porter nos regards sur les choses de la terre, mais plutôt de regarder vers les choses d'en haut, là où est Christ, et il est assis, c'est-à-dire il a terminé son œuvre. C'est en lui qu'est la vraie prospérité, c'est en lui qu'est vraiment l'Évangile, la bonne nouvelle. Amen.